sur le Pont des Arts. Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. Des pistes d'athlétisme à celles du désert de Namibie. C'est un récit à la première personne, un seul en scène qui explore l'intime et l'universel. D'abord l'expérience d'une enfant noire en France à la recherche de modèles inspirants qu'elle finira par trouver dans le sport. Et puis la découverte d'un pays, la Namibie, dont le désert rougeoyant attire les touristes mais qui, elle, la connecte à l'histoire du premier génocide du XXe siècle, celui des populations Herero et Nama sous la colonisation allemande, un génocide oublié. Piste, écrit et désormais mise en scène par Penda Diouf, interprétée par Nanyaji Kagara. Elles sont avec nous aujourd'hui sur le Pont des Arts. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et
bonjour.
Bienvenue sur RFI. Hier soir, au salut final sur la scène du Théâtre 13 à Paris, vous étiez main dans la main, toutes les deux. Il faut dire que cette aventure de piste, ça remonte à plusieurs années. Vous l'avez interprétée, vous, Penda Diouf, il y a de nombreuses années. Et cette fois, vous avez passé le flambeau.
Oui, j'ai passé le flambeau à Nanyaji Kagara, qui est une actrice incroyable et qui connaissait le texte aussi. Et je savais qu'elle avait une sensibilité telle qu'elle pouvait incarner raconter cette histoire du génocide et à la fois être mon double fictionnel au plateau.
C'est aussi. Ça, elle l'avait interprété dans une première version, on va dire une mise en scène assez minimaliste. Cette fois, c'est vous qui signez la mise en scène.
Oui, exactement, c'est ma première mise en scène et je suis très heureuse de commencer par ce texte et par ce spectacle.
Voilà, seule en scène, donc un exercice particulier, presque un exercice d'athlète. Vous nous le confirmez ?
Je vous le confirme, oui.
C'est ça, 2 heures toute seule sur scène, ouais. C'est très impressionnant. Et on va en parler dans quelques instants, capter, garder comme ça l'attention du public. Le théâtre, encore aujourd'hui dans cette émission, dans notre café polar du jour, un café polar spécial. Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous parlez d'un roman policier qui nous fait découvrir aussi les coulisses d'une troupe de comédiens à l'époque de Corneille.
En effet, on va y croiser des personnages qui ont réellement existé, mais c'est une vraie fiction historique signée d'Hélène Claire Murgier, l'autrice de mon coup de cœur de la semaine dont je vais vous parler un peu plus tard et qui s'intitule « Meurtre en 5 actes ».
À tout à l'heure Catherine.
RFI sur le Pont des Arts.
Lausanne, Oslo, Atlanta, Tokyo, Zurich, Stuttgart, Athènes. Je ne sais pas toujours bien si je sais vivre dans le monde, mais je suis chaque été, avec passion, les grands meetings, les championnats du monde ou les Jeux olympiques d'athlétisme. Quel que soit l'horaire, impossible de ne pas suivre le 100 et 200 mètres. Parce que ce sont les disciplines reines dominées par des Afro-Américains sûrs d'eux, musclés, gainés, moulés, dans leur juste corps, saillants. Il en faut peu pour la gamine de 15 ans. Et puis il y a Frankie.
Frederick's very quick out of the blocks there. Let's have a look at the gap down the back straight. Frederick's working hard. They're beginning to close up and Moen's made very little impression on the Namibian at this stage. Round the top bend, Regis is going well. Regis coming back at Moen on this occasion. But look at Frankie Frederick, way, way out in front. Watch the clock. Frederick's at the line, smashes the world record. 19.92.
Voilà, Frankie Frederick, vice-champion olympique sur le 100 mètres et le 200 mètres aux Jeux de Barcelone, aux Jeux d'Atlanta, commentaire de l'époque hein, qu'on entendait à l'instant. Il n'est pas dans la pièce, mais c'est un clin d'œil à piste, puisqu'on voit à plusieurs reprises hein, le visage de Frankie Frederick s'afficher sur scène, grave, humble, sur la ligne de départ. Penda Diouf, il a vraiment agi pour vous comme un libérateur, ce Frankie Frederick, à votre adolescence?
Oui, je pense qu'il a été à la fois libérateur et révélateur. Je faisais de l'athlétisme à l'époque et il y avait peu de personnes noires, en fait, vers lesquelles je pouvais me projeter, m'identifier, hormis peut-être dans le monde du sport ou de la musique. Et Francky Frédéric, ça a été vraiment cette personne d'origine africaine, subsaharienne, comme moi, et qui voilà, se retrouvait parmi les plus grands sur les podiums, mais qui, malgré tout, conservait cet ancrage, cette humilité, cette dignité qu'on lui connaît, et puis cette élégance quand il court également. Ouais. Et je trouvais ça extrêmement beau et touchant.
Et pour cet enfant que vous mettez en scène, dans Piste, qui se sent à la marge, en périphérie, comme vous l'écrivez, il lui montre qu'elle peut être sous la lumière, finalement.
Oui, je pense effectivement qu'il a ouvert la voie, quoi, plusieurs voies en tout cas pour moi, à la fois dans l'idée de la confiance en soi, l'idée d'oser faire les choses, de sortir de sa zone de confort, et peut-être aussi il a initié les premières marques de ce voyage en Namibie.
Ouais, il représente donc une figure africaine de vainqueur pour celle dont la confiance, et on l'entend très bien dans Piste, la confiance est ébranlée par les autres, elle voudrait être comme les autres, mais tout la ramène en réalité à sa différence et à sa couleur de peau.
Oui, exactement. Je pense que lorsqu'on grandit dans un environnement où on est en contexte minoritaire, il est parfois difficile aussi de faire lien, faire pont avec les autres, avec le groupe, d'appartenir au groupe. Et c'est ce sentiment-là de solitude que j'avais envie d'aborder aussi dans le texte, dans le spectacle. Et je pense que ce sentiment de solitude, il est aussi universel. Pas toujours lié, en tout cas, à des considérations d'ordre ethnique ou de
racisme. Absolument. D'ailleurs, vous faites le parallèle avec la petite Mélanie qui doit aller voir l'orthophoniste parce qu'elle prononce pas bien, parce qu'elle a des difficultés d'élocution. Elle aussi, elle est à la marge, sauf que elle va justement pouvoir se soigner, alors que vous et le personnage de Piste doit faire avec sa différence pour toujours, c'est ça?
Oui, exactement. Je crois qu'à cette époque, j'avais vraiment l'impression d'être un personnage tragique et d'avoir affaire à une forme de fatalité qui faisait que je ne serais jamais comme les autres et que je ne pourrais jamais être active, mais plutôt observatrice toujours du bonheur des uns et des autres et pas du mien.
Ouais, ouais. Nayaji Kagara, vous épousez ce rôle à merveille. Vous vous y reconnaissez aussi dans ce que vient de dire Penda Diouf, dans cette difficulté de la différence quand on grandit en France et qu'on est noir?
Oui, je m'y reconnais, tout à fait. Je trouve que, avec ma couleur de peau noire, il y a certains défis qui sont à surmonter dans la vie sociale et dont on parle pas forcément parce que ça devient un sujet qui peut être tabou, qui peut être honteux ou qui peut renvoyer à une figure un peu déstabilisante pour l'autre. Mais c'est une réalité en France, oui. J'ai déjà eu affaire à ce genre de propos, de situations.
Ce qui est terrible, c'est que vous montrez, la pièce montre à la fois les moqueries des enfants, mais aussi les failles de l'institution, les failles de l'école. Penda Diouf, totalement enferrée dans des préjugés, qui ne sait pas, finalement, à l'époque où vous êtes enfant, prendre en compte cette différence.
Oui, complètement. Je raconte plusieurs anecdotes dans le spectacle, et notamment, par exemple, celle du bac de français.
Mais oui, j'allais vous en parler, justement.
puisque, j'ai eu la malheureuse surprise de voir que je n'avais pas mon bac de français et que, mon oral s'est passé de façon assez difficile parce que, la personne qui était dans le jury a eu tout de suite des projections sur moi.
Elle a tiqué sur votre couleur, pour le dire très clairement. La photo d'identité était trop sombre. On vous demandait ce que vous aviez sur votre tête alors que vous aviez tout simplement vos cheveux.
Oui, c'est ça. Et le fait d'avoir écrit dessus m'a permis aussi de mettre à distance. Mais c'est vrai que cet incident a eu des conséquences plus tard parce que j'étais vraiment très bonne en français. J'étais la seule à ne pas avoir mon bac de français. Et du coup, ça m'a aussi empêchée de faire une classe prépa après. Donc,
ça a eu de grosses incidences. Cette épreuve du bac, qui est donc un échec pour vous, vous dites dans la pièce que finalement, les parents, quelque part, vous y ont un peu préparé. C'est-à-dire que depuis petite, ils vous disent, tu vas avoir à en faire trois fois plus pour avoir la même chose, voire moins.
Oui, exactement. Depuis toute petite, j'ai été élevée, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses aussi à avoir été élevées dans cette dialectique-là, à savoir qu'il faut être le meilleur pour s'en sortir, sinon on sera touchés par du rejet, des discriminations et des difficultés à s'insérer socialement.
Ouais. Et puis, il y a cette expérience du blackface que vous racontez aussi, qui est terrible. C'est un carnaval à l'école, Panda Diouf.
Oui, c'est un carnaval à l'école à Quetigny et tout le monde était déguisé. C'était, il y avait la thématique de l'Afrique, donc tout le monde était déguisé en africain, je mets des gros guillemets.
Eh oui.
Et donc, il y a eu à la fois un blackface et puis aussi l'ajout de perruques avec des tresses. Et moi, j'ai pas du tout eu le droit ni de me déguiser, ni de me maquiller, ni de mettre la perruque parce que j'étais déjà noire.
On vous renvoie à nouveau à votre différence et à votre condition. C'est dans le milieu scolaire peut-être que cette différence-là est le plus difficile à assumer, Nanya Djekagara ?
Dans le milieu scolaire et pas que dans le milieu scolaire, aussi dans la vie en général. Il y a aussi parfois des propos qui peuvent être des formes de racisme un peu ordinaires, qui ne sont pas forcément conscientisés, qui arrivent dans la vie au quotidien.
Mmh. En tout cas, vous arrivez sur scène en tenue de sport, short, t-shirt, basket. Indépendamment de Frankie Frédérics, pour vous, le sport aussi a joué un rôle dans une sorte d'émancipation et d'acceptation en fait, de votre différence ?
Je dirais le corps, plus que le sport, c'est plus le corps. Je suis une adepte du yoga, de pratiques qui sont liées au corps, donc la danse.
Et de la danse aussi.
La danse aussi, danse contemporaine, danse entre guillemets africaine traditionnelle. Et je dirais que ce travail-là lié au corps m'aide déjà à m'accepter tout simplement, à m'aimer en tant que femme noire, à dialoguer avec mon corps, oui. Je dirais que ces pratiques-là aident beaucoup. Oui.
Il est question énormément dans cette pièce, Panda Diouf, du corps, de la souffrance des corps et de la mise en valeur des corps. C'est un sujet, c'est une thématique qui vous tient à cœur.
En tout cas, il me semblait important, en abordant cette question du génocide et de l'histoire avec un grand H, de pouvoir montrer concrètement ce que ça donnait sur les corps. Parce que lorsqu'on parle d'histoire, on a des dates, on a des choses qui sont très théoriques, mais moi j'avais envie de revenir à un côté très pratique, très concret, très quotidien, et de parler du corps et de la façon dont le corps peut être empêché, peut être contraint. C'était aussi une façon de renouer avec du sensible et de renouer du coup avec l'histoire de chacun et chacune.
You remain blind. Elle s'appelle Shishani, elle est namibienne. Elle écrit, elle chante, elle joue de la guitare. Elle a déjà été plusieurs fois primée. Et c'est notre réalisateur, Pierre Plantier, qui nous offre cette découverte sur le Pont des Arts. On est toujours avec Penda Diouf et Nan Yadji Kagara pour la pièce Piste au Théâtre 13 à Paris. Les pistes dont vous nous parlez, Penda Diouf, ce sont aussi celles, parfois difficiles à pratiquer, du désert du Namib.
Te souviens-tu des dunes ? Te souviens-tu des dunes de Namibie ? Te souviens-tu des dunes de Namibie et du roulis du sable sur leurs flancs ? De la mélodie de leurs flancs ? De l'aine des dunes de Namibie, d'où s'écoulent des grains de sable égrenés un à un, roulant sur eux-mêmes, précipités dans la chute de reins vertigineuse de la dune, ils brûlent d'impatience de rouler sur le sol, loin de leur point d'origine, un endroit d'où ils ne verraient plus, d'où ils ne verraient rien car leurs yeux ont tout vu et leur rétine a brûlé. Ils chantent leur complaint dans un ruissellement tantôt féerique, tantôt maléfique, d'une mugissante. C'est la complainte du grain de sable rôti au soleil dans le désert du Namib qui roule, qui tombe, qui chute. Ce sont les pleurs sans larmes des grains de sable, témoins des morts millénaires, témoins des corps décharnés, de la soif, de l'oubli des autres continents.
Et cet oubli, c'est le sujet central de cette pièce, Penda Diouf, l'oubli d'un génocide, le premier du XXe siècle, le génocide qui a frappé les populations Herero et Nama. Dans cet extrait, je trouve qu'on entend toute la poésie de votre langue. Ça a été votre premier amour, la poésie, Penda Diouf ?
Oui, j'ai commencé l'écriture, j'étais adolescente, j'avais 14-15 ans et j'écrivais de la poésie beaucoup. J'étais très inspirée par les poètes un peu classiques, mais voilà.
Baudelaire. Vous le citez effectivement dans la pièce. Ouais. Vous en écrivez toujours aujourd'hui ?
J'écris toujours de la poésie, oui, mais ça reste dans mes tiroirs.
À plusieurs reprises, vous vous demandez dans la pièce quand a commencé ce voyage en Namibie. Donc, pas forcément avec Frankie Frédéric. Vous ne savez toujours pas à quel moment vous avez décidé de partir pour ce pays-là et de mettre au jour cette histoire-là.
J'ai l'impression que des fois, il y a des choses qui nous appellent et que cet appel est passé peut-être par Frankie Frédéric, mais qu'il était peut-être déjà là avant que je fasse sa connaissance. Et oui, je pense qu'il y a une certaine façon, que d'une certaine façon, la Namibie m'a appelée.
Voilà. Ouais. Et vous y êtes allée donc seule. Vous racontez à quel point c'est compliqué de se rendre dans ce pays-là quand on est une femme seule, sans homme pour l'accompagner, sans amis. Voilà, ça suscite pas mal de surprises, pas mal d'étonnement.
Oui, parce que c'est un voyage qu'on fait souvent. Souvent j'ai vu des jeunes couples, alors pour les voyages de noces par exemple, ou bien des familles, mais des personnes qui voyagent seules en Namibie, c'est très rare, à plus forte raison des femmes et à plus forte raison des femmes noires. Mm-hmm. Alors, pour les Namibiens, c'était extrêmement surprenant et je l'entends aussi, vu le contexte aussi social, économique de la Namibie, c'est sûr que c'est rare de voir une femme noire toute seule au volant et rouler dans le désert pendant 6 ou 7 heures toute seule.
Et vous partez à la recherche de ce génocide oublié ou vous le découvrez une fois sur place ?
Non, je savais, j'étais informée du génocide en partant et c'est vrai que j'avais une sorte d'attention particulière à ce que je pourrais trouver aux traces en fait, du génocide sur place et j'ai pas trouvé grand-chose. Mais c'est aussi le propre des génocides, en fait, c'est aussi de tout effacer.
Mmh. Nan Yadji Kagara, vous la connaissiez, vous, cette histoire, avant de l'interpréter sur scène, ou vous l'avez apprise quelque part en interprétant Piste ?
Non, je l'ai découvert grâce à Piste, grâce à l'écriture de Penda dans un premier temps. Mmh. Et je m'y suis plongée pour préparer le spectacle, pour préparer mon travail d'interprète. Et c'est vrai que ça a été une découverte qui était incroyable. De savoir qu'il y a un génocide, le premier génocide du XXe siècle qui a été perpétré en Namibie, en terre africaine, et que personne n'en parle, c'est
ouais, 75% des hereros, c'est ce que vous dites dans la pièce, 50% de ces populations Nama qui ont résisté en fait, aux colons allemands, qui ne voulaient pas céder leurs terres et qui ont été massacrés pour ça.
Oui, complètement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la population herero, alors que c'était la population majoritaire en Namibie, aujourd'hui ne représente plus que 6% de la population. Et dans le texte, effectivement, moi je m'intéresse aussi beaucoup aux figures qui sont debout, qui restent dignes, et j'avais envie aussi de montrer des actes de résistance, de pas toujours parler voilà, du continent africain ou de la colonisation comme des personnes ayant été victimes, mais de les montrer aussi en résistance, en action. Voilà, les gens ne se sont pas laissés faire.
Ils ne se sont pas laissés faire, mais la force coloniale a été
bien
plus
sûr.
Forte qu'eux.
Mmh.
Et l'histoire s'est finie, comme on le sait, donc avec des dizaines de milliers de victimes. Il y a tout ce travail documentaire, en fait, en amont de la pièce, comme une réparation a posteriori du silence pour vous, Penda Diouf. Parce qu'il y a quelques jours, on recevait Joe Star et David Bobé, que vous connaissez bien, hein, qui a participé à la scénographie de votre pièce, qui ont monté ensemble Black Label et qui est un peu dans la même veine, c'est-à-dire c'est un théâtre documentaire. On livre des informations au public sous une forme théâtrale aussi.
Oui, moi j'utilise plutôt la forme de théâtre documenté parce que pour moi la fiction elle
parce
est vraiment importante.
Parce que ça reste du théâtre, oui.
Ça reste du théâtre et que la fiction, la question du sensible reste pour moi vraiment importante. Mais effectivement, j'ai fait un vrai travail documentaire en amont, déjà par le voyage qui m'a permis d'expérimenter concrètement ce qu'était la Namibie pendant un mois et quelques, de poser des questions aussi, d'interroger. J'ai eu la chance de rencontrer Memory Biwa, alors dans un autre contexte, puisque c'était en Allemagne quelques années plus tard, et elle aussi m'a permis d'affiner ma connaissance du pays. Et puis après, ce sont des livres, et je tiens à citer ce livre, un recueil de lettres d'Hendrik Witbooi qui s'appelle « Votre paix sera la mort de ma nation », et qui est un livre incroyable puisqu'il montre justement toutes les lettres qu'Hendrik Witbooi, qui était le commandant des Nama, tout ce qu'il a
quand
pu mettre en œuvre.
Quand vous parlez de résistant, il est une des figures résistantes.
Complètement.
Dont vous parlez effectivement dans la
c'est
pièce
ça.
Et que vous réhabilitez en quelque sorte dans la pièce.
On essaye de rendre hommage, ouais. Et il me semble que ce livre est vraiment important. C'est un acte, quoi, c'est vraiment un document qui permet de montrer que les gens ont résisté et d'avoir une autre version de l'histoire. Et
comment, quand vous vous êtes attaqué, j'allais dire, à la mise en scène de ce texte que vous portez en vous, que vous avez écrit, comment avez-vous abordé justement cette question-là et cette question de représenter cette réalité-là sur scène ? On va essayer de pas trop en dire sur la mise en scène, mais voilà.
Alors j'avais donné 4 mots à l'équipe en fait au tout début lorsque je projetais le spectacle et que rien n'avait la scénographie n'était même pas encore dessinée. J'avais utilisé les termes d'équilibre parce que je voulais que les choses soient équilibrées entre les différents médiums qui seraient utilisés au plateau. J'ai utilisé le terme sobriété parce que je voulais aussi qu'il y ait de l'espace pour l'imaginaire, que le plateau ne soit pas rempli et que ce vide qu'on découvre dans le désert en Namibie, que ce vide soit aussi présent au plateau. J'ai utilisé le terme dignité parce qu'il me semblait que c'était important de souligner la dignité de ces personnes dont on parle. Et j'ai aussi utilisé le terme élégance. Mais ça, je crois que c'est lié à Frankie Fredericks.
C'est lié à Frankie Fredericks et c'est lié aussi à la très belle interprétation de Non-Yadji Kagara. Quand
Merci.
Vous dites équilibre, c'est vrai que vous occupez cet espace non seulement par la parole, mais aussi, on l'a dit, par le corps, par la danse, par le chant. Vous êtes omniprésente.
Dans ce seul en scène, oui.
C'est ça.
Mais je pense que c'est l'histoire du corps, je pense, qui lie en fait tous ces différents médiums. Parce que déjà, l'écriture de Penda, je trouve, est vraiment une écriture qui est viscérale, qui part des tripes, donc qui part du corps et qui relie aussi au travail d'interprétation, qui part aussi du corps, ce corps qui est habité par les pensées, par la poésie de Penda, par ces êtres que nous invoquons, Witbooi, l'oncle, tous ces magnifiques êtres en fait qui sont partis trop tôt et qui ont porté beaucoup d'histoires lumineuses en eux et qu'on doit partager, qu'on partage avec grand plaisir avec les spectateurs, spectatrices. Et ce corps, en fait, est vraiment le lien entre les différents médiums.
Mmh. Comment est-ce qu'on se prépare à une telle performance sportive, j'allais dire, de tenir 2 heures sur scène comme ça? Il y a déjà l'apprentissage du texte qui est extrêmement dense à certains moments. Il y a aussi des moments de pause, mais il y a des passages très, très denses. Et puis, il y a toute cette présence sur scène aussi. Comment est-ce que vous y êtes préparé? C'était votre premier? Je crois pas, hein. C'est pas la première fois que vous interprétiez un seul en scène.
C'est pas la première fois, mais c'est quand même, je dirais que c'est quand même une première fois parce que le seul en scène de piste mis en scène par Panda, c'est 2 heures et c'est une exigence que je n'ai pas encore traversée en tant qu'interprète à ce niveau-là.
Et donc c'est un défi que vous êtes lancé aussi.
C'est un défi, oui, avec grand plaisir, parce que le texte est vibrant et la mise en scène de Panda, je la trouve organique, authentique, et c'est un plaisir pour moi en tant qu'interprète de naviguer dans cette mise en scène avec les différents médiums, voilà, la scénographie de David, de Léa, le son de Lunja, Mijoub, le tout le travail de lumière aussi de Claire Gondrexon, enfin voilà, tous ces artistes avec lesquels nous avons travaillé, c'est une chance, voilà, c'est plus qu'un défi, c'est une chance, je dirais, c'est un honneur de pouvoir porter le travail de Panda et de tous ces artistes magnifiques.
Le travail de Panda qui s'achève sur scène avec une séquence extrêmement forte qu'on va évidemment pas révéler, mais où vous placez Panda Diouf presque physiquement les spectateurs face à l'oubli et face à cette histoire occultée. C'est ça, c'était l'intention, c'est comme un rituel du souvenir que vous nous donnez à voir.
Oui, c'est effectivement un espace où on prend le temps et on prend le temps de commémorer, de faire communion ensemble, et pour moi il était extrêmement important de terminer le spectacle sur cette note-là de partage et de souvenirs, d'introspection. Chacun peut y projeter ce qu'il y souhaite et ce qu'il va traverser, mais ouais, pour moi c'était l'endroit juste.
Ouais, et l'impression qu'on a quand on est dans la salle, c'est que ça réveille effectivement les consciences, en tout cas que ça abasourdi peut-être dans un premier temps et qu'ensuite ça réveille, c'est-à-dire qu'on se dit effectivement avec vous comment a-t-on pu ignorer cette histoire aussi longtemps.
Ouais, pour moi c'est une sorte de passage de relais aussi, c'est toute l'équipe, Nanyaji, on vous a transmis cette histoire en tant que spectateur, spectatrice, maintenant c'est à vous peut-être de la transmettre également et de faire en sorte que cette histoire ne se reproduise plus.
Pas d'after party, j'ai pris le VTC, les autres sont pas. Je fais des parties d'échecs dans ma tête. Je prends pas souvent parti pour moi-même. J'aime bien la couleur de tes yeux dans le fond des miens. Quand y'a plus la douleur posée en travers du chemin, j'aime bien la couleur de ma peine au creux de ta bouche. Quand on m'en fait des fleurs, sur nos bouquets on se couche. Je connais pas la douleur. Elle me connaît bien. Je connais pas la douleur. Elle me connaît. On se
la playlist RFI du mois, Mira, avec ce titre des fleurs. Non, Yadji Kagara et Penda Diouf avec nous sur le Pont des Arts pour la pièce Piste au Théâtre 13. Et si vous voulez bien, on va vous inviter à partager, comme chaque semaine, notre café polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Et Catherine Fruchon-Toussaint, on découvre avec vous cette semaine le roman « Meurtre en 5 actes ». On imagine qu'il va se dérouler dans l'univers du théâtre.
Et vous imaginez bien, Nathalie, je vous emmène en effet au théâtre, mais dans les salles parisiennes du XVIIe siècle, l'époque de prédilection de l'autrice Hélène Claire Murgier, qui, quand elle n'écrit pas des romans policiers, elle est musicienne et joue du clavecin.
C'est magnifique, c'est elle qu'on entend ici dans cet extrait ?
Oui, dans ce concerto de Vivaldi qu'elle a interprété, mais elle a aussi mis en scène des opéras, elle est également librettiste, directrice artistique de plusieurs compagnies. Autant dire qu'elle a un profil plutôt atypique dans l'univers du roman policier. Pourtant, elle le confesse, la chose criminelle l'intéresse beaucoup. Hélène Claire Murgier.
Parce qu'il y a quelque chose dans le fait divers qui m'échappe complètement. C'est-à-dire que la vie de quelqu'un peut basculer. Aussi, les raisons pour lesquelles des gens vont avoir envie de tuer me semblent complètement invraisemblables. Et ça m'intéresse de comprendre comment, en fait, on en arrive à vouloir tuer quelqu'un pour des raisons, je sais pas, de financières, pour des raisons de vengeance et tout. Et comme c'est quelque chose qui m'est très loin, en fait, je ne comprends pas bien, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir envie de passer à l'acte ? Et voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la curiosité, en fait, de ma part.
Et cette curiosité, elle l'assouvit donc en écrivant des romans policiers, car ce n'est pas son premier, Catherine. Hein ?
En effet, c'est le 4e volume d'une série qui met en scène le lieutenant Jacques Chevassu, policier à Paris. C'est un enquêteur assisté d'un second, Philippe Demey. Deux hommes mesurés, sérieux, qui se comportent même avec beaucoup de civilité dans leurs interrogatoires, ce qui pourtant n'était pas vraiment répandu à cette époque, comme le rappelle Hélène Claire Murgier.
En fait, en découvrant la justice de cette époque, justement, il faut se souvenir qu'il y avait encore le gibet de Montfaucon qui existait encore, qu'on voyait à cette époque-là encore, qui était un endroit où on pendait les gens qui étaient condamnés à mort.
On a pendu avec ce type.
Et c'était une justice d'une cruauté épouvantable, notamment avec l'utilisation constante de la question. La question qui était c'était vraiment
une torture
épouvantable, qui sont à la limite du supportable parfois quand on lit ce qui était fait. Et dans Abbesse, dans le premier, mon lieutenant criminel l'utilise quand même, ou un peu la question, et puis finalement, Je me suis dit qu'il fallait que j'ai un lieutenant un peu plus humain, un peu plus humaniste, qui rejette la torture. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que c'est à la fois il y a très longtemps et en même temps à l'échelle finalement de l'histoire, c'est relativement près de nous finalement. Et donc la manière dont la justice était faite à cette époque-là interroge aussi sur la manière de donner la justice, de faire la justice à travers l'époque.
Et voilà, le décor est posé. Paris, au début du XVIe siècle, avec deux policiers qui se retrouvent ici face à une série de meurtres dans le milieu du théâtre.
Oui, c'est un milieu où on croise même le jeune Corneille, d'ailleurs, qui écrivait des comédies. Alors donc, nous sommes en 1631 exactement. Le roman s'ouvre sur la découverte, lors d'une représentation, d'un corps de comédien retrouvé mort sur scène, poignardé. Il a donc été assassiné en direct, en tout cas face au public, et à un moment où les acteurs étaient nombreux et en train de virevolter avec leurs masque, c'était la mode des ballets, et pourtant personne n'a rien vu. Et à peine l'enquête commence que la même scène se répète dans un autre théâtre, une série de meurtres qui paraît inexplicable, rivalité entre troupes de comédiens, fanatisme contre les acteurs qui à cette époque étaient frappés d'infamie civile, donc non reconnus par l'église, bref, toutes les hypothèses sont envisagées, et parmi les suspects, un homme, Théophraste Renaudot, qui a réellement existé. Il a d'ailleurs laissé son nom à un prix littéraire célèbre, aujourd'hui le Renaudot. Mais au début, c'était un médecin et il a même été considéré comme l'inventeur du journalisme en France. Hélène Clermurgier nous raconte comment il est passé de l'un à l'autre.
Théophraste Renaudot était adepte d'une médecine moderne. Moderne pour l'époque, mais enfin qui s'éloignait quand même de tout ce qui était la saignée. Et quand on lit un tout petit peu, j'ai lu un tout petit peu ce qu'il a écrit sur la médecine, c'est vrai que ça se rapprocherait un tout petit peu plus de la médecine de maintenant, dans le sens où il utilisait des médicaments, il y avait quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu moins inhumain, on va dire. Et parallèlement à ça, il avait envie d'aider les pauvres notamment, donc il a d'abord créé le Monde Piété, créé le premier bureau d'adresse.
Et... Rappelez-nous quand même quel était le principe de ce bureau d'adresse.
Alors, le bureau d'adresse, il a réalisé qu'en fait, il fallait mettre à la fois des gens qui cherchaient du travail avec des gens qui cherchaient des ouvriers, par exemple. Donc, c'était la première fois qu'il y avait ce qu'on peut appeler le pôle emploi. C'est-à-dire, des gens venaient, disaient, j'aimerais être ouvrier, je suis capable d'être charpentier. Et des gens venaient en disant, on cherche un charpentier, et il les réunissait. Et donc, c'est dans cet environnement-là qu'il a décidé de faire sa gazette, qui était là pour parler de ce qui se passait alors à la fois en France, mais aussi en Europe. Et Théophraste Renaudot est considéré comme un des premiers journalistes de l'histoire moderne.
Et Catherine, sur la couverture du roman, très belle, on voit le visage d'une femme qui se cache à moitié derrière un masque. Il y a aussi des personnages féminins dans Meurtre en 5 actes ?
Oui, au moins deux, dont l'autrice fait un portrait très attachant d'ailleurs. Il y a une jeune femme mariée à un vieux barbon qui se prend d'amitié pour une jeune actrice qui, elle, essaye de faire sa place au théâtre. Or, à cette époque, c'était très rare. On les comptait même sur les doigts de la main. Hélène Clermurgier.
Oui, alors on les compte sur les droits de la main parce qu'elles n'ont pas le droit d'aller sur scène. D'ailleurs, elles n'avaient pas le droit d'aller sur scène non plus dans le théâtre de Shakespeare. Donc ça, j'ai découvert. Et j'avais envie d'interroger en fait dans le livre un tout petit peu, alors sans rien dévoiler, mais un peu le fait que les femmes étaient parfois obligées de se grimer, peut-être parfois de se cacher, d'être plutôt en homme pour pouvoir exercer certains métiers. Alors, il y en avait quelques-unes, il y en avait deux, trois là, qui ont réellement existé, mais effectivement très très peu, parce que les femmes qui étaient comédiennes étaient vraiment considérées comme des prostituées, c'était vraiment très très mal vu. Il y a quand même toujours eu cette petite notion de ces femmes qui avaient beaucoup de liberté et qui avaient aussi un grand recul par rapport à la religion, qui semblait libre, disons, par rapport à une époque qui était quand même très corsetée.
C'est un roman très documenté, Catherine, comme le théâtre de Penda Diouf. Même dans l'écriture, en cette semaine de la langue française, c'est un sujet qui a toute son importance. Et là, Catherine, vous avez savouré les références au français tel qu'il se parlait au XVIIe siècle et que l'autrice restitue.
Oui, avec beaucoup de subtilité, bien entendu. L'écriture ici est très fluide. Mais en effet, Hélène Clermurgier, ci et là, glisse des mots oubliés de nos jours, ou mieux, nous montre combien le vocabulaire a évolué. Alors, je vous donne un exemple. Bougre, à cette époque, désignait un homosexuel. Le terme homosexuel n'existait pas, il y avait encore un tabou dans la société et donc on disait à la place bougre et bougresse, alors qu'aujourd'hui c'est un terme un peu familier mais qui n'a plus du tout la même connotation. Autre exemple, la nourriture et des plats dont certains intitulés ont totalement disparu de notre langage. Ici, on déguste des pets de putain glacés qui sont un dessert à base de blanc d'œuf et de sucre. Et d'ailleurs, à la fin du roman, il y a une liste de quelques recettes que les personnages du roman ont dégustées pendant l'enquête. J'ai demandé à Hélène Clermurgier pourquoi elle avait tenu à les ajouter.
Je me suis rendu compte que quand je lis un livre, j'aime relativement bien quand le romancier ou la romancière m'amène à table et me fait déguster quelque chose.
Bonjour ma voisine, bonjour mon voisin, je n'ai point de pain, mais j'ai de la farine.
Et en lisant en fait les recettes qui sont vraiment de cette époque-là, hein, ce XVIIe siècle, alors déjà les titres m'amusaient, et puis je me suis dit, il faudrait d'ailleurs que j'essaie d'en faire, hein, pourquoi pas.
Parce que vous n'avez pas essayé ?
Non, je n'ai pas encore essayé.
Vous vous invitez à les tester, mais il faut les tester aussi.
Voilà, exactement. Mais j'aimerais bien le faire j'ai une idée avec des amis de faire ça justement. Et en fait, c'est un moyen aussi de montrer qu'on mangeait pas tout à fait les mêmes choses, qu'il y avait un rapport à la nourriture un peu différent, mais il y avait quand même ce plaisir de faire des... Enfin, je trouve ça assez appétissant, en fait, la manière dont c'est décrit est quelque chose d'assez généreux.
m'évite la main à la pâte.
Voilà, un roman aussi divertissant qu'instructif et dont l'intrigue est d'ailleurs à la fois machiavélique mais aussi très moderne. Bref, c'est un plaisir à ne surtout pas bouder. Je rappelle son titre « Meurtre en cinq actes » de Hélène Clermurgie qui a été publié dans la collection Actes Noirs chez Actes Sud. Et vous saurez tous sur les coulisses de ce livre en écoutant le podcast du Café Polar.
Catherine Fruchon-Toussaint, un grand merci pour cette nouvelle découverte demain au programme de Littérature sans frontières.
Eh bien demain, en cette semaine qui célèbre la langue française, je reçois l'écrivaine Jean J. Dominique. Elle est née à Port-au-Prince et elle a grandi sous la dictature Duvalier. Mais elle a dû quitter son île natale il y a 20 ans pour s'installer au Québec. Et pourtant, Haïti est toujours au cœur de ses romans, à l'image du nouveau qui s'intitule « Tu nous manques » et qui est un message d'amour aux absents.
Merci Catherine.
RFI sur le pont des arts.
Pas de meurtre, ni en un acte, ni en cinq actes dans la pièce de Penda Diouf, Piste, qui est en ce moment au Théâtre 13 à Paris. Je me demandais, en écoutant Catherine, Penda Diouf, si le genre du roman, à un moment donné, avait pu vous tenter, ou si vous êtes résolument à la fois fan et autrice de poésie et de théâtre pour toujours.
Non, je suis une grande fan de romans et puis j'ai été bibliothécaire pendant 10 ans, donc je suis une grande fan de littérature et de romans.
Vous êtes une grande lectrice, donc.
Oui, exactement, ouais. Une grande lectrice, mais le roman m'intéresse. Là, je travaille à un roman sur un compositeur africain-américain qui s'appelle Julius Eastman et qui est décédé en 1990 et d'accord. Qui était un des premiers à avoir fait de la musique minimaliste. Et il a été vraiment invisibilisé.
Donc une histoire vraie que vous allez encore à nouveau ressortir, voilà. Ressortir des limbes et romancer. Donc.
Ouais. Oui, c'est ça, j'aimerais en faire un roman et il y aura certainement aussi une forme théâtrale qui sera en dialogue avec le roman.
Ouais. Ouais. Y a un aspect de votre travail que l'on n'a pas évoqué, qui n'est ni sur scène, ni dans l'écriture, mais qui est ce que vous faites dans la vie, dans la vraie vie, j'allais dire, pour promouvoir les jeunes à travers le label Jeune Texte en Liberté. Vous nous expliquez en un mot de quoi il s'agit ?
Oui, c'est un label qu'on a créé il y a 10 ans avec un metteur en scène qui s'appelle Anthony Thibault et qui essaye de valoriser les auteurs et les autrices de théâtre contemporain, de traverser la question de la diversité pour que ça n'en soit plus une, donc diversité sur les plateaux de théâtre, mais également diversité de narration et qu'on puisse entendre d'autres voix, d'autres récits, d'autres narratifs, d'autres imaginaires sur les plateaux de théâtre aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi de créer la rencontre entre une pièce de théâtre fraîchement écrite et un public.
Ouais, et c'est donc dans la totale continuité du thème que vous développez, évidemment, dans Piste, ce thème de l'intégration, de la visibilité aussi.
Ouais, de l'accompagnement. Je crois que la question de la transmission m'importe beaucoup, aussi bien lorsque j'écris que lorsque je mets en scène et lorsque je suis plus porteuse de projets, comme c'est le cas pour Jeune Texte en Liberté.
Je voudrais qu'on dise un tout petit mot d'un sujet d'actualité, peut-être avec vous, Nongyadji Kagara, cette mobilisation du monde de la culture, aujourd'hui même, à l'instant où l'on se parle, manifestation dans Paris sur les restrictions budgétaires, notamment dans les collectivités territoriales qui financent les théâtres des régions françaises où vous avez travaillé, vous êtes attaché également. C'est une mobilisation évidemment qui concerne tout le monde de la culture et qui vous parle à vous aussi.
Ah, bien sûr, ça me parle totalement en tant qu'interprète. Je suis totalement aussi sensible à ces sujets-là parce que c'est grâce à ces budgets que nous pouvons être sur scène, nous pouvons habiter cet espace de réflexion qui est la scène et de partage avec les spectatrices. Et ces coupes budgétaires tuent énormément de compagnies à l'heure actuelle. Je connais des amis, comédiens, comédiennes ou créateurs qui sont en difficulté. Et
c'est seulement une inquiétude pour le futur, c'est aussi une inquiétude
très actuelle. C'est très actuel, oui.
Penda Diouf, vous confirmez, vous aussi ?
Oui, je rejoins complètement les inquiétudes globales du monde de la culture et plus globalement du monde en entier.
sur ces restrictions. On va écouter un groupe que vous connaissez peut-être, Foulou Miziki Collective. Ils seront avec nous demain dans cette émission. à la Fulumiziki Collective. Fulumiziki, ça veut dire musique des poubelles, parce qu'ils fabriquent leurs instruments à partir de matériaux de récupération. C'est un groupe de Kinshasa qui navigue entre punk, électro et rumba. Ils seront donc demain avec nous sur le Pont des Arts. Penda Diouf, Noyadji Kagara, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Piste est à voir au Théâtre 13 à Paris jusqu'au 29 mars, puis à Poitiers, c'est ça ?
Exactement, les 3 et 4 avril prochains à Poitiers, puis il y aura une tournée la saison prochaine.
Voilà, et on attend évidemment les prochaines dates, vous nous tiendrez au courant sur le Pont des Arts avec Damien Roucou et Pierre Plantier. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur rfi.fr et sur notre application Pure Radio et nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour réécouter, réagir et commenter. À suivre sur RFI dans un peu plus d'une minute, le journal en français facile. Et Radio Foot International, Olivier Pron. À demain.
Votre rendez-vous culturel sur le Pont des Arts, à retrouver du lundi au vendredi à 15h10 sur RFI et en podcast sur l'application Pure Radio.